J'aimerais vous partager ce soir une réflexion sur l'amour. J'aime. J'aime le fromage, j'aime le chocolat, j'aime les fleurs, j'aime la musique de Mozart. Je t'aime. J'aime le dharma. J'aime le silence. J'aime. Et le mouvement, quand je dis j'aime, c'est un mouvement extraordinaire, hein? Il y a cette chanson de Jacques Brel, Quand on n'a que l'amour, quand on n'a que l'amour. À offrir au canon. Il finit sa chanson, Quand on n'a que l'amour à offrir au canon. C'est dommage que je ne l'ai pas avec moi, mais c'est tellement beau. Nous aurons dans nos mains, amis, le monde entier. Et d'une certaine manière, quand j'aime, j'ai dans les mains le monde entier. C'est une nourriture fondamentale. Un élan de toute beauté. Et c'est aussi une peur abyssale. La peur de ne pas savoir aimer, de ne pas être aimé. Et dans l'exercice de la méditation, quand nous lâchons nos protections, quelque chose se purifie au niveau de l'amour. Paradoxalement, ce qui me coupe de l'amour, c'est le désir même d'être connecté. Et avec la pleine conscience, nous pouvons rester connectés, nous pouvons rester en lien. C'est ce qui est bon. Se laisser être, c'est de l'amour. C'est Lao Tzu qui dit, si tu veux devenir serein, laisse-toi être tendu. Si tu veux devenir droit, laisse-toi être tordu. Si tu veux devenir plein, laisse-toi être vide. L'aveuglement, c'est une inquiétude fondamentale d'être coupé de l'amour. Nous avons cette impression que nous pouvons être isolés, seuls, séparés. C'est ce qu'on appelle l'illusion ou l'ignorance. Et ce mystère de la non-séparation il est totalement paradoxal parce que ce que je cherche, je le suis déjà. Et nous apprenons à lâcher le besoin de comprendre intellectuellement. Parce que quand je veux comprendre, c'est du non-amour. C'est pour ça que quand nous lisons les paroles du Bouddha ou quand nous écoutons un enseignement ou finalement dans nos vies, comment écouter un enseignement ou comment vivre nos vies, prendre ce qui aide, lâcher le reste, ne pas nous tendre toujours pour tout comprendre. Et dans l'exercice de la méditation, lorsque nous aimons, nous pouvons sentir combien c'est plein Et lorsque ça devient désagréable et que nous n'aimons pas, combien ça peut être redoutable. Et ça change vite. C'est Wellwood qui dit « Toute peine a ses racines dans une vieille blessure de n'avoir pas été pleinement aimée et une vieille frustration de n'avoir pas été capable de faire quoi que ce soit à ce sujet. Une fois établie, cette blessure et frustration restent comme un virus caché qui sommeille dans notre système nerveux, prêt à surgir au moment où quelqu'un agit de la mauvaise manière. C'est ce qui déclenche toutes les poussées émotionnelles qui affligent nos relations. » L'isolement nous guette parce que nous ne savons pas rester connectés. Et au fond, c'est beau de se sentir seul, parce que ça veut dire que derrière, il y a cette aspiration à l'amour, à la connexion. Et dans l'exercice, lorsque nous venons en retraite, que nous coupons si possible la relation à l'autre pour venir en nous-mêmes, cet isolement se fait sentir. Et c'est important de l'apprivoiser. Sentir comment, quand je me sens coupée de cette énergie d'amour, c'est quand même ok. Dire oui, et quand ça dit non, continuer à dire oui. La préciosité de la nature humaine. Nous sommes précieux parce que nous pouvons porter cette ouverture du cœur, ce j'aime. Et c'est tellement important de nourrir cette ouverture-là. Ça ne veut pas dire s'y attacher, mais la nourrir, la voir. Là, je lisais un bouquin d'Edmond Kaiser. Puis j'ai été touchée par une des paroles qu'il disait à sa manière. Il est très vrai comme ça. Hein. Et je l'ai noté. « Quoi qu'en disent les imbéciles, un enfant sauvé de la misère, c'est bien plus qu'une goutte d'eau dans l'océan. » La préciosité d'une vie humaine parce que nous savons aimer. Et le moi, il a envie de faire des grandes choses, il a envie d'ambition, il a envie. Mais si nous savons aimer, nous savons tout. C'est largement suffisant. J'ai sorti aussi une parole d'Etty Lezoum qui parle de cette communion possible. Elle dit « Je connais deux espèces de solitude. L'une me rend triste à en mourir et me donne le sentiment d'être perdue, sans direction. » L'autre, au contraire, me rend forte et heureuse. La première provient du fait que j'ai l'impression de ne plus avoir de contact avec mes semblables, que je suis totalement séparée de chacun d'eux et de moi-même, au point de ne plus comprendre quel sens la vie peut avoir. Il me paraît qu'elle n'a plus de cohérence et que je n'y trouve plus ma place. Mais l'expérience d'une autre solitude me rend forte et sûre de moi. Je m'y sens en communion avec chacun, avec tout et avec Dieu. Je me sens insérée dans un grand tout rempli de sens et j'ai le sentiment que je peux aussi partager avec d'autres cette grande force qui est en moi. La solitude me permet de me connecter à moi-même et à ce centre qui pulse vers le j'aime, mais le j'aime dans l'instant, pas un j'aime que je veux absolument faire durer. Je peux aimer toujours. Il suffit que je mette l'objet de l'amour au bon endroit. Dans le bouddhisme, on parle de ces quatre qualités de cœur. D'une part, l'empathie. Pour nous, pour les autres, cette manière de se connecter. Et ça n'est pas une avidité relationnelle où j'ai absolument besoin d'être dans la bienveillance par rapport à l'autre parce que je me sens exister. Mais c'est un espace de bonté. Une manière de ne pas tenir les choses à distance, de ne pas entrer dans le rejet. Et cette empathie, elle est interrelationnelle, mais elle est aussi entre moi et moi. Quand je parle des Brahmavihara, j'aime bien juste dire une ou deux des paroles de ces enfants qui demandent des choses à Dieu. Parce que l'enfant, il sait tellement bien que l'énergie dans l'instant a le droit d'être connectée telle qu'elle est. Il n'y a pas de barrières. Alors certains les ont déjà entendus, mais ça fait rien. Et puis je les ai pas retrouvés, donc je vais un tout petit peu les inventer. Je vais faire l'enfant. C'est une petite Mathilde qui dit à Dieu, cher Dieu, envoie Myriam Redier dans une autre colonie de vacances cette année. Merci beaucoup. Ou bien un petit Mathieu qui dit à Dieu, « Cher Dieu, peut-être que Cain n'aurait pas tué Abel s'ils avaient eu chacun leur chambre. Avec mon frère, ça marche. » Ou une petite Lucie qui dit, « Cher Dieu, ça doit être dur pour toi d'aimer les gens du monde entier. Chez moi, on n'est que quatre et j'y arrive pas. » Ou bien une petite Sophie qui demande « Cher Dieu, pourquoi tu fais mourir les gens pour les faire renaître au lieu de garder ceux qu'on a déjà ?» L'empathie qui permet de connecter à l'énergie dans l'instant. La compassion, qui n'est pas une manière de tomber dans le chagrin ou l'injustice, le sentiment d'injustice ou la pitié, mais qui est vraiment cette sagesse qui fait qu'il y a une non-peur et un non-déni pour l'expérience douloureuse quand elle émerge. Et c'est intéressant de voir comment nous avons à recommencer encore et encore. Parce qu'on s'installe volontiers dans « j'aime ». Ça fait du bien, on s'y installe. Et après, quand tout à coup, ça vient de nouveau le défi du désagréable. Et le « je n'aime pas », ça demande un petit travail pour intégrer l'énergie. Et nous devenons facilement durs ou même cruels. Il y a une certaine cruauté à ne pas embrasser la vie et l'autre quand il vient avec ses difficultés. Il y a cette jolie histoire. Je crois que c'est Jack Kornfield qui racontait ça. C'est un père chrétien qui est responsable d'un centre de détention pour jeunes. Et puis il a un entretien avec un loubard qui a été arrêté pour brigandage et port d'armes illicites. Le jeune entre arrogant, vérifiant qu'il est le centre de l'attention, s'assied lourdement en échangeant avec moi une poignée de mains molles et méprisantes. Je lui demande « Quel est ton nom ?»« Sniper » est la réponse, ça veut dire « tireur d'élite ». « Oui, je sais, vous avez des noms de bande, mais quel est ton nom ?»« Sniper » répond-il encore. « Ok mec, je suppose que quand tu es sorti de son ventre et qu'elle a vu que tu étais un garçon, ta maman ne t'a pas appelé Sniper. Quel est ton nom ?»« Gonzalez » dit-il à contre-cœur. « Oui, c'est ton nom de famille, l'administration te nomme ainsi, mais comment ta maman t'appelle-t-elle »« Cabrone » dit-il, et il n'y avait pas la moindre parcelle d'innocence dans sa réponse. « Ah, je sais, Superman, mais je ne parle pas ici de ton livret de famille ni de ton certificat de naissance. » Je me mis à rire et le jeune sourit légèrement. Et avec un certain embarras et une toute nouvelle vulnérabilité, il dit « Napoleone » et sa voix avait un doux accent espagnol. Wow, « Waouh, ça c'est un beau nom, historique et noble !» Mais je suis presque sûre que ta maman n'utilisait pas le nom entier. Dis-moi, as-tu un petit nom ? Comment t'appelait ta maman ? Je le vis aller loin dans un passé qu'il n'avait pas visité depuis longtemps. Sa voix, son corps tout entier, prirent une forme toute nouvelle, juste là devant mes yeux. Et d'une voix calme et tendre, il dit « Parfois, quand ma maman n'était pas fâchée ou qu'elle n'était pas trop occupée, elle m'appelait Napito. » Je vis ainsi ce jeune se transformer de sniper à Gonzalez, à Cabrone, à Napoleone et à Napito. Ne voudrions-nous pas tous être appelés par le nom que nous donnait notre maman quand elle n'était pas excédée et qu'elle avait le temps pour nous ? Lâchez nos protections par la compassion. La joie que nous avons déjà vue, c'est un début de sagesse quand la gratuité s'approfondit. Je vois de mieux en mieux le cœur de l'être. Et la joie, ça n'est pas l'enthousiasme pour un état. C'est une ouverture, ça n'est pas de l'attachement. Il faut y avoir un fort sens du moi, c'est plutôt une absence de jalousie, de comparaison, d'inquiétude. Le quatrième aspect, c'est l'équanimité. Et quand il y a l'équanimité, je ne donne pas de pouvoir à l'autre. L'autre est à sa place, je suis à la mienne, et nous pouvons coexister ensemble, sans problème. C'est aussi cette notion de pardon, l'équanimité, c'est pardonner la souffrance de la vie. Elle sait tout accueillir. Elle sait faire confiance. Elle sait prendre refuge. Quand je prends refuge, c'est que j'ai une conscience claire de l'équanimité. Quand je prends refuge, c'est que je sais que dans la réactivité, il n'y a rien qui peut me nourrir. L'équanimité, c'est aussi cette conscience que l'impermanence est bonne. Il n'y a plus de déni de l'impermanence. J'ai vu que ça va. Waouh, ça va, j'aime. Et puis après, ça va pas. j'aime pas. Et je n'essaye pas d'aimer quand j'aime pas. C'est, et je peux voir, et je ne suis pas, je ne mets pas mes œufs dans le panier de l'expérience. L'équanimité, c'est aussi ce qui sait savoir que je pourrais être toi. Je connais le mystère du fait de naître dans un corps et je sais que je pourrais naître dans n'importe lequel. Il se trouve que je suis dans celui-là, en ce moment, à cet endroit. Avec l'équanimité, il y a aussi l'interconnexion qui est, ou l'interdépendance, ou cette manière universelle de se sentir soi-même appartenant à un tout. Et l'équanimité donne une force éthique. Ce qui ne veut pas dire que je ne mets pas de limites à l'autre ou à moi-même, mais je mets des limites sans qu'il y ait de haine. Je vous raconte ce qu'ils ont déjà entendu, tant pis, il y en a peut-être qui ne l'ont pas entendu. L'histoire de... Pour bien comprendre ce qu'est la limite, hein, et l'importance de mettre des limites et de ne pas confondre le monde conditionné qui a besoin de limites avec la réalité ultime qui est tout accueillante. C'est l'histoire d'une dame qui fait une retraite dans un monastère et puis elle a sa cellule qui est juste à côté de celle d'un monsieur. Et puis ce monsieur n'est pas très très conscient des limites justement qu'il faut avoir avec une dame. Il la regarde avec insistance, il va même quelquefois jusqu'à s'approcher tout près d'elle avec un petit peu l'envie de la toucher. Et puis un jour il pleut et puis elle sort avec son parapluie et puis son voisin de cellule est là. Et puis il s'approche, et puis elle en a marre, elle lève son parapluie. Et à ce moment-là, elle voit son maître qui vient de sortir sur le perron du monastère tout près. Et elle est extrêmement confuse et honteuse. Et elle va voir son maître et puis elle lui dit « Mais qu'est-ce que je pouvais faire ? Ça fait des semaines qu'il me regarde avec insistance, qu'il vient trop près de moi. » Et puis son maître lui dit « Ce que tu pouvais faire ? Remplir ton cœur de bienveillance et donner des grands coups sur la tête de cet impoli avec ton parapluie. » L'équanimité, ce n'est pas l'indifférence. L'indifférence peut être redoutable. L'indifférence est terrible. L'équanimité, c'est une sérénité avec une grande force de présence et d'accueil. C'est un soin. Quand je suis dans l'équanimité, je sais prendre soin. Il y a une humilité aussi. Il y a une très très jolie image du Dalai Lama qui rencontre un des plus hauts responsables birman, je crois. Et puis ils sont l'un en face de l'autre, puis ils se saluent, puis ils veulent chacun saluer le plus bas possible. Ils sont tous les deux en train de descendre plus bas que terre. Ce soin l'un de l'autre, cette reconnaissance qui est humble, qui est l'autre est plus important que soi-même. Je vous lis une parole de Thich Nhat Hanh. Notre ami est une fleur. Si nous prenons soin de la fleur, elle grandira merveilleusement. Si nous la négligeons, elle dépérira. Pour aider une fleur à bien grandir, il faut comprendre ses besoins. Combien d'eau a-t-elle besoin ? Combien de soleil ? Nous regardons profondément en nous-mêmes pour voir notre vraie nature et nous regardons dans les autres pour voir leur nature. Nous pouvons nous asseoir, prendre la main de notre ami, le regarder profondément et dire « Est-ce que je te comprends assez? Est-ce que je prends bien soin de toi? Est-ce que j'arrose tes graines de peine et tes graines de joie? S'il te plaît, dis-moi, comment je pourrais t'aimer mieux ?» Cet amour se développe par la pleine conscience, non pas dans la forme d'un idéal ou d'une espèce d'hypnose ou de but à atteindre, vraiment le contraire, vraiment dans cette intimité avec l'expérience ici et maintenant, mais où je ne suis pas envahie, où je ne suis pas débordée. Et nous pouvons voir quand il y a le sens du moi, où justement il n'y a pas amour. Et on peut vraiment le sentir physiquement lorsque je prétends ou bien que je triche un peu, quand je mets la faute sur l'autre, quand je suis dans la culpabilité ou quand je m'attache à mes opinions ou quand je rejette les opinions de l'autre, quand j'essaye d'avoir tout juste, quand je veux être mieux, quand je veux être moins bien ou quand je me sens moins bien plutôt. Quand j'ai peur d'exister, ou quand j'ai envie d'exister, d'être vu. Quand j'ai peur qu'on m'ignore ou qu'on me rejette, que je me sens pas reconnue à ma juste valeur. Ça arrive tout ça. Et ça arrive en retraite souvent. Et quelle est la réponse ? Je te vois, je te vois, Mara. Dans l'ésotérisme chrétien, il y a ces trois qualités de l'amour qui sont Eros, c'est cet amour pour la jouissance, que ce soit à travers les sons, la belle musique, que ce soit à travers le goût, la bonne nourriture, ou un beau tableau, la chartreuse de la Part-Dieu, c'est beau cette chartreuse. Eros, ou à travers le corps, les sensations corporelles. Ça fait du bien, nous pouvons sentir cette jouissance consciemment et nous l'offrir. Philos, c'est cet amour interrelationnel qui est bon à recevoir et à donner, cette appartenance à un groupe, à une sangha, cette gratitude pour le soin que nous donne Geneviève, que nous nous donnons les uns aux autres, que tout ce que nous avons reçu de nos maîtres ou de nos enseignants, tout ce qui est nourriture affective et spirituelle grâce aux autres, nos familles, qu'est-ce qu'elles nous nourrissent, nos amis, nos collègues. Et puis, agapé, c'est cet amour totalement gratuit. C'est la substance même de la création, dit Christiane Singer. L'amour du silence, l'amour de l'espace, l'amour du dharma. Cette manière de laisser faire, quand nous laissons faire le dharma en nous, d'une certaine manière, c'est de l'amour qui pénètre le corps. L'amour pour la pratique du dharma. L'amour pour l'instant. Quand je me connecte à l'instant, j'y suis. Il y a un grand plaisir du corps lorsqu'il peut se laisser nourrir de cette manière. Nous n'avons pas besoin de dire « je t'aime » à quelqu'un ou à quelque chose. Nous pouvons dire « je t'aime » à rien, juste parce que nous sommes amour. Et il y a ce recevoir et donner entre le particulier et l'universel qui est tangible. Ok, mon corps a des limites. Mais la conscience, elle est autant dedans que dehors. Elle est autant dans l'autre qu'en moi. C'est ça, cet amour qui est substance de la création. C'est la conscience pure. Et alors nous nous rendons compte que nous ne sommes pas l'expérience, que nous ne sommes même pas la vie en moi, mais que nous sommes ce contenant. Cette illimité qui contient la vie. Je vais finir avec une parole encore de Christiane Singer. Parole de Seigneur et non de victime. Christiane Singer est morte d'un cancer et elle a fait de toute sa maladie une bénédiction incroyable. Elle dit « Ma vie, on ne me la prend pas, c'est moi qui la donne. Ma vie, je ne la préserve pas, je ne la garde pas, je la donne. L'innocent qui souffre ne peut pas mourir, on ne peut lui prendre que ce qu'il n'a pas donné. Si tu as tout donné, la vie, la mort, il ne reste rien. Certains appellent cela l'agapé ou l'amour, le seul Dieu qui ne soit pas une idole, celui qu'on ne possède qu'en le donnant. » C'est le service, il ne nous reste qu'à servir. Je vous propose qu'on prenne quelques minutes en silence.